au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
J'ai tant couru pour faire le tableau de Paris que je puis dire l'avoir fait avec mes jambes. Aussi ai-je appris à marcher sur le pavé de la capitale d'une manière leste, vive et prompte. C'est un secret qu'il faut posséder pour tout voir. L'exercice le donne.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Vous me direz peut-être que cet homme fait tache dans notre émission. Un homme qui a dit prévoir en s'en félicitant, hélas de surcroît, qu'au XXVe siècle, on n'enseignerait plus guère l'histoire parce que chacune de ses pages serait rejetée comme un tissu de crime. Un homme qui a annoncé qu'on mettrait le feu à la masse épouvantable, je cite, à la masse épouvantable des livres qui en traitent. Selon, je cite encore, un sacrifice expiatoire offert à la vérité, au bon sens, au vrai goût. Bon, mais je me hâte de vous rassurer. Louis-Sébastien Mercier, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'appelle aucune rétorsion rétrospective. Car son œuvre nous offre et offre à l'histoire, sur son temps, entre le règne de Louis XVI et la fin du Premier Empire, un matériau en vérité admirable pour qui souhaite restituer les couleurs de cette période divisée par le coup de hache de la Révolution. Comme il s'est voulu toujours, dans le fil de ses écrits, à bonne distance tout à la fois de l'épopée et du sang, son héritage s'est longtemps trouvé en décalage par rapport à la mémoire heurtée de ces temps-là. Mais depuis quelques décennies, son sang-froid nourrit le nôtre. Et nous allons nous attacher à éclairer l'actualité de son regard sur les gens et sur les choses au cœur de ce Paris qu'il a tellement aimé. Voilà un maître du journalisme autant qu'un authentique écrivain. Attentif à révéler, avec un œil sans pareil, les profondeurs d'une société, comme les ambiguïtés du langage en mouvement. Nul n'a plus contribué à démontrer cette modernité que Jean-Claude Bonnet, directeur de recherche émérite au CNRS, qui a réédité les œuvres de Mercier en leur restituant un éclat longtemps trop injustement pâli. Il est donc devant moi.
L'ombre s'évapore, et déjà l'aurore de ses rayons d'or, les toits d'alentour, les lampes pâlissent, les maisons blanchissent, les marchés s'emplissent, on a vu le jour de la Villette dans sa charrette. Suzon brouette ses fleurs sur le quai, et de Vincennes Gros Pierre amène ses fruits que traîne un âne flanqué. Déjà l'épicière, déjà la fruitière, déjà les caillères sont abattus lit. L'ouvrier travaille, l'écrivain rémaille, le fainéant baille et le savant lit. J'entends Javotte portant sa haute crier, carottes, panais et chifleurs, perçantes et grêles, son cri se mêle à la voix frêle du noir ramoneur. Le joueur avide, la mine livide et la bourse vide rentre en fulminant. Et sur son passage, l'ivrogne plus sage rêvant son breuvage, ronflant, fredonnant. Gentil, accorde devant ma porte, Perrette apporte son lait encore chaud. Et la portière sous la gouttière prend la volière de Dame Margot. Le malade sonne afin qu'on lui donne la drogue qu'ordonne son vieux médecin, tandis que sa belle que l'amour appelle au plaisir fidèle, fin d'aller au bain. Dans chaque rue plus parcourue, la foule accrue grossit tout à coup. Grand, bas de taille, vieillard, marmaille, bourgeois, canaille, abonde partout. À quelle cohue, ma tête est perdue, moulue et fendue, où donc me cacher? Jamais mon oreille n'eut frayeur pareille, tout Paris s'éveille, allons nous coucher.
Jean-Claude Bonnet, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre une chanson très célèbre de Marc-Antoine Désaugiers, une chanson de 1802 qui est interprétée ici par Francis Lemarque en 1993, une chanson qui s'intitule « Tableau de Paris à 5 heures du matin ». « Tableau de Paris », c'est le titre de l'ouvrage majeur de notre grand personnage, notre Mercier, « Tableau de Paris », et puis ensuite « Nouveau tableau de Paris ». Cette chanson vous évoque la sensibilité de Mercier ?
Bien sûr, surtout un chapitre du tableau de Paris intitulé « Les heures du jour », où Mercier nous montre ce qu'il appelle les huit classes de la société, comment les huit classes s'activent, s'agitent dans la journée. Alors il y a les lève-tôt et les couche-tard. Il y a Paris qui s'éveille et Paris qui s'endort. Et cette chanson est très proche de cela. Et il y a chez Mercier ce goût justement de catégoriser chaque heure du jour, chaque classe. Et il y a dans son regard une volonté de définir un gradin, ce qu'il appelle un gradin symbolique, c'est-à-dire une sorte, on pourrait dire, une palette d'écrivains, on pourrait dire un nuancier de marchands de mode, vous savez, avec les échantillons de couleurs.
Oui, oui.
Comme dit Diderot, d'ailleurs, dans l'encyclopédie.
Diderot qui fut son maître.
Oui. Diderot dit « Je ne veux pas que l'encyclopédie soit uniforme parce que chaque chose a son coloris, chaque technique. » Et Mercier pense aussi que pour dire la variété de Paris, cette variété qui le passionne avant tout, la variété mouvante, il faut élargir le vocabulaire, il faut avoir des mots couleurs. Il appelle ça des mots couleurs. Et il y a cette idée de la vigueur du langage qui seule peut rendre compte de ce mouvement.
On ne se lasse pas de le suivre d'ailleurs, marchant dans Paris.
Voilà. Vous avez cité dans l'introduction de l'émission ce très beau passage où il dit qu'il a fait son tableau avec ses jambes.
C'est déjà le piéton de Paris de Léon-Paul Fargue.
Bah écoutez, j'allais le dire.
Eh bien, je vous ai devancé.
Voilà.
Léon-Paul Fargue, 1939.
C'est parce qu'on marche vite qu'on a une saisie vite, très rapide, impressionniste des choses, qu'on peut saisir, comme dit Mercier, quelque chose entre un nuage ouvert ou refermé. Alors ça, si vous voulez, c'est une dimension impressionniste qui est complètement moderne dans la littérature de l'époque et qui, évidemment, annonce une esthétique de la flânerie, de la promenade, qui aura un avenir très important chez Stendhal, chez Nerval, chez Baudelaire. Et c'est pour ça que Baudelaire aimait beaucoup Mercier.
C'est à propos de la Révolution qu'il emploie cette formule sur les nuages. Toutes ces nuances si rapides, si opposées, rendront la plume de l'historien indécise, incertaine, autant vouloir fixer la couleur des nuages. Mais réservons la Révolution pour tout à l'heure.
Oui, mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que la rapidité de la saisie, c'est déjà dans le tableau de Paris. Et s'il a été tellement capable de saisir la Révolution, quoi qu'il en doutait de pouvoir le faire, c'est parce qu'il s'était habitué à être rapide. Et donc, il a pu accompagner la Révolution dans son emballement, dans sa vitesse, en quelque sorte. Mais c'est quelque chose qu'il avait appris déjà avant. Et le tableau de Paris est marqué constamment, parce qu'il dit « j'ai fait le tableau en courant ». Ça n'est qu'en courant qu'on peut voir vraiment les choses. Et effectivement, les aperçus, les sons, j'ai employé dans un texte l'idée qu'il était un homme caméra dans Paris. C'est-à-dire qu'il se balade, c'est une espèce de dispositif sensorimoteur. Il se balade en enregistrant et en voyant. Et il arrive à capter des choses que les gens ne voient pas.
On aurait pu probablement donner à son œuvre le titre que Victor Hugo a adopté pour son magnifique son œuvre de journaliste. Il avait un œil, Victor Hugo, c'est-à-dire chose vue.
Absolument.
Mais commençons, si vous le voulez bien, par rappeler que Mercier est un Parisien non seulement de choix, mais de naissance. Il est profondément parisien. Il naît quelque part du côté du Pont-Neuf.
Oui, il est entre le Pont-Neuf et le Louvre. Quai de l'École, ses parents sont fabricants et marchands d'épées. Et il est vraiment au centre du Paris de l'époque. Il dit que le Pont-Neuf est l'aorte de Paris. Et c'est vrai que ceux qu'on appelait les nouveaux débarqués de province, c'est, on venait là pour faire des rencontres, pour voir ce qui se passait. C'est d'ailleurs là que Jacob, le paysan parvenu de Marivaux, tombe dans les bras de Mademoiselle Habert. Non, c'est elle qui tombe dans les bras de Jacob, parce qu'elle a un moment d'hypoglycémie, vous vous souvenez. Et le destin du beau Jacob est fait. Ça se passe sur le Pont-Neuf. Donc Mercier habite là. Il est vraiment au centre des choses, en fait.
Origine petite bourgeoise.
Et je dirais peut-être, pour le définir plus socialement, commerçant. C'est pour ça qu'il est tellement... il a ce regard si affectueux sur les marchands, et les belles marchandes surtout, de la ville. De ce milieu-là, il en parle très bien.
Alors, comment ce fils de commerçant devient-il cet écrivain journaliste? Vous préférez, Jean-Claude Bonnet, qu'on dise écrivain plutôt que journaliste? Il est vraiment les deux, au sens contemporain du terme.
Bien sûr. Vous avez raison de parler de journaliste. Parce que, en fait, quel a été le parcours de Mercier pour parler de Paris?
Avant la Révolution, oui, dites-nous.
Oui. Eh bien, il a été dramaturge.
Il est né en 1740, donc il a...
Il est né en 1740.
Ans, au moment de la Révolution. Voilà.
Et il s'est fait connaître par une utopie, l'an 2440, donc que vous avez cité au début. Il devient Mercier l'Européen, parce que l'an 2440, le genre de l'utopie plaît énormément, aujourd'hui encore. C'est pour ça que ce livre a été réédité, d'ailleurs. Mais après, il se fait connaître comme dramaturge. Et c'est pour le théâtre que la première fois, il envisage, de peindre les choses familières et ordinaires. Il dit ça au dramaturge, après Molière. Et il dit, il faut peindre les coutumes d'une ville. Et cette ville, ça sera Paris. Pourquoi Paris? Parce que cette ville, j'aime Paris uniquement. C'est-à-dire, j'aime Paris exclusivement. Pourquoi? Parce qu'elle est unique. Pourquoi elle est unique? Parce que c'est le tableau le plus mouvant qui soit au monde. Et c'est le lieu des contrastes. Mais alors, en fait, il ne va pas peindre les coutumes de Paris pour le théâtre. Il va peindre Paris dans la presse. Il était directeur du Journal des Dames en 1775-76 et il a publié quelques petits textes sur Paris. Il a compris qu'il avait inventé quelque chose. Il les a regroupés en deux volumes. Et puis après, il a compris que ça allait vraiment bien marcher et ça avait été publié par la Société typographique de Neuchâtel. En 81, il s'est installé à Neuchâtel 4 ans et il y a eu le tableau de Paris en 2 volumes, qui est devenu un tableau de Paris en 12 volumes.
Eh bien, je ne vais pas vous faire entendre les 12 volumes, vous seriez surpris, Jean-Claude Bonnet, mais tout de même, un extrait pour que nous entendions la voix de Mercier, tableau de Paris. Il s'agit notamment des portefaix.
Sommaire. Petite bourgeoise. Jeune mariée. Le Parisien en province. Du temps. Escroc poli, filou. Perruquier. Porteur de sel, poisson de mer, taxe des pauvres, portefaix.
Portefaix. Nous avons au coin des rues des Hercules et des Milon de Crotone pour emménager ou déménager nos meubles et porter les fardeaux du commerce. Vous les appelez d'un signe et ils sont à vous avec leurs crochets. Appuyés sur des bornes, ils attendent qu'on leur donne l'emploi. Vous croiriez que ces hommes ont une taille au-dessus de la commune, des couleurs vermeilles, des jambes fortes et de l'embonpoint. Non, ils sont pâles, trapus, plutôt maigres que gras, ils boivent beaucoup plus qu'ils ne mangent. À toute heure, vous les trouvez prêts à charger leur dos des poids les plus lourds. Légèrement courbés, soutenus sur un bâton ambulatoire, ils portent des fardeaux qui tueraient un cheval. Ils les portent avec souplesse et dextérité, au milieu des embarras des voitures et dans les rues étranglées. Tantôt c'est une glace qui en occupe toute la largeur et fait danser toutes les maisons pour qui la suit et la regarde. Tantôt c'est un marbre fragile et précieux, chef-d'œuvre de l'art. Mais ce qui fait peine à voir, ce sont de malheureuses femmes qui la hôtent pesante sur le dos, le visage rouge, l'œil presque sanglant, devancent l'aurore dans des rues fangeuses ou sur un pavé dont la glace crie sous les premiers pas qui la pressent. C'est un verglas qui met leur vie en danger. On souffre pour elles, quoique leur sexe soit étrangement défiguré.
C'était une lecture de Frédéric Cantrel dans l'émission de René Elkaïm Bollinger, Une vie, une œuvre sur France Culture, le 20 juillet 2003. Je rappelle que Milon de Crotone était un puissant athlète de l'Antiquité grecque. Nous avons d'ailleurs consacré une émission à ce personnage récemment avec Jean-Manuel Roubineau. Alors, Jean-Claude Bonnet, Voilà un exemple tout à fait topique et représentatif de cette œuvre, le tableau de Paris. Vous avez remarqué le miroir qui passe, et ça évoquait d'autres miroirs avec des bœufs, non?
Vous savez, dans Paris, dans l'aménagement de la ville d'ailleurs, le Mercier réformateur, il y a beaucoup de textes concernant les bouchers. C'est quelque chose qui a passionné le 18e. Et d'ailleurs, sous la Révolution, il va dire que les bouchers ne sont pas ce qu'on croit.
Vous avez aussi consacré, je ne veux pas faire une évocation de toutes nos émissions antérieures, une émission aux bouchers, qui était en effet très, très éclairante sur la puissance de ce groupe dans l'espace parisien.
Oui, qui était le boucher qui était tabou dans l'encyclopédie. Il y a une sorte de malédiction sur cette profession. Et après, dans le Nouveau Paris, il nous dit que les bouchers sont des agneaux par rapport aux tables dures révolutionnaires et que les vrais hommes de sang, ce sont pas eux. Tout à coup, la profession est sauvée.
Alors, ces miroirs,
ça, c'est très beau. Alors, les miroirs, oui. Alors ça, si vous voulez, dans la ville, dans l'aménagement, d'abord, les tueries dans la ville, il y avait des flaques de sang et on se crottait les chaussures. Mercier détestait ça. Mais surtout, il y avait des bœufs qui s'échappaient. Mais d'ailleurs, dans les villages, il y a encore 50 ans, il se passait des choses comme ça. C'était tout, quand on amenait les bœufs dans la boucherie, c'était tout un problème, il fallait barrer la rue et tout ça. Et il y a eu, alors il raconte l'exemple de bœufs qui s'échappent. Il y en a un qui s'échappe et qui rentre à Saint-Eustache au moment de la messe, et tous les gens grimpent aux étages. Et puis, il y en a un autre très beau, c'est un bœuf échappé qui rentre dans une miroiterie. Et là,
le bœuf se multiplie.
Le bœuf se voit et croit qu'il y a un troupeau de bœufs qui lui en veut. Il casse tout. C'est un très beau passage.
Il y a ce mélange toujours chez lui de verve maligne chez Mercier et de douceur.
Oui, et aussi, alors dans le passage qui a été lu, il y a la femme portefaix. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais souligner parce que c'est vraiment essentiel et nouveau dans la littérature du temps. C'est la dimension de la pitié.
La compassion.
La compassion, qui est certainement liée à une pensée religieuse de Mercier. Cette religion du 18e, qui est souvent méconnue, mais qui est très belle aussi, philanthropique. Il a écrit de très belles choses sur le génie du christianisme, du côté de la philanthropie et de l'assistance.
C'est plus la charité que la solidarité.
Voilà, oui, oui. En tout cas, dans ce qu'il dit de la femme portefaix, on retrouve d'ailleurs quelque chose qu'il avait dit comme théoricien du drame. Comme théoricien du drame, il avait souhaité que ce nouveau genre, dit-il, développe les affections sociales, que ce genre crée une commotion électrique et une sorte d'unisson moral. Eh bien, c'est ce qu'il fait dans le tableau quand il décrit la misère. Il dit qu'il a vu la misère de près. Et là, il dit aussi qu'il veut traduire l'accent aigu et plaintif de l'opprimé. Et donc, il y a ces très beaux passages. Il y a le passage sur la femme portefaix. Il y a aussi un passage sur les ouvriers pour le blois flotté, dont les travaux, dit-il, sont déchirants à voir. Il y a les passages sur l'exploitation des enfants.
Le bois flotté, c'est-à-dire ceux qui travaillent au bord de la Seine et qui souvent
c'est tombent.
C'est
le bois qui vient par la rivière. Ils sont dans l'eau, dans la boue. Et il y a aussi les petits savoyards qu'on utilise comme ramoneurs et qui peuvent se casser le dos. C'est un travail extrêmement dangereux.
Il admet les gradins, comme vous disiez, une inégalité sociale, mais il trouve intolérable. Il admet la pauvreté, mais pas la misère.
Non, et la souffrance aussi. Alors ça me rappelle un très beau texte de Claudel à propos de Charles-Louis-Philippe. Et dans ce texte, Claudel dénonce les romanciers français du 19e, donc Flaubert, Balzac, Zola, et dont il dit qu'ils sont des bourgeois haineux, qui ne ressentent à l'égard des pauvres gens ni compassion ni amour. Et il oppose à ce roman français Dickens et Dostoïevski.
Et il pourrait, d'après vous, opposer aussi Mercier.
Absolument. Alors je pense qu'il y a de la compassion dans Germinal. Je pense qu'il est trop dur là-dessus. Il y a quelque chose chez Zola tout de même. Mais Mercier, lui, il y a une véritable compassion et Mercier prend ses distances avec une certaine anthropologie des Lumières qui n'a pas de regard pour ça. Vous prenez l'encyclopédie, le travail dans l'encyclopédie, ce sont des petites mains abstraites. Mercier, lui, décrit ce qu'on appellerait aujourd'hui la pénibilité du travail, la dangerosité du travail. Et on est loin de l'abstraction des petites mains qui sont dans les planches de l'encyclopédie où le travail dans l'encyclopédie est toujours fait en riant, tout le monde rit, sourit. Le labeur n'est pas là. Mercier, tout à coup, il y a une profondeur sociale complètement nouvelle et on peut dire qu'il y a un réalisme empathique.
C'est d'ailleurs pourquoi un homme comme Rivarol, qui est au contraire tout à fait à droite de l'échiquier politique à l'époque de la Révolution, reproche à Mercier de sauter de la cave au grenier sans s'arrêter au salon.
Oui, c'est pas faux, c'est pas juste non plus.
C'est en même temps, alors dites.
C'est-à-dire qu'il décrit quand même les milieux. Cela dit, il décrit les choses rapidement. C'est pas quelqu'un qui s'appesantit. Mais on peut pas dire qu'il soit uniquement dans le bas. Dans le bas, ou dans le grenier du misérable, ou dans la cave. Il décrit quand même tous les milieux. Il décrit toutes les institutions. Il parle aussi bien de l'opéra, des théâtres, que des hôpitaux ou des prisons. Donc je pense que Larry Varol, c'est un petit peu un trait...
Un peu polémique.
Un peu trop vite dit, c'est polémique.
Vous parliez tout à l'heure de l'homme de Mercier écrivain comme une sorte de peintre. Il y a aussi l'écoute, il y a aussi Louis. Il y a constamment la couleur, c'est cela probablement qui donne tant de force rétrospective à cette œuvre, la couleur d'un côté et les sons de l'autre. Écoutez cet extrait du tableau de Paris, là encore, sur les cris. C'est une lecture d'Emmanuel Lemire dans l'émission que je citais tout à l'heure.
Cris de Paris. Non, il n'y a point de ville au monde où les crieurs et les crieuses des rues aient une voix plus aigre et plus perçante. Il faut les entendre et lancer leur voix par-dessus les toits. Leur gosier surmonte le bruit et le tapage des carrefours. Il est impossible à l'étranger de pouvoir comprendre la chose. Le Parisien lui-même ne la distingue jamais que par routine. Le porteur d'eau, la crieuse de vieux chapeaux, le marchand de ferraille, de peau de lapin, la vendeuse de marais, c'est à qui chantera sa marchandise sur un mode haut et déchirant. Tous ces cris discordants forment un ensemble dont on n'a point d'idée lorsqu'on ne l'a point entendu. L'idiome de ces crieurs ambulants est tel qu'il faut en faire une étude pour bien distinguer ce qu'il signifie. Les servantes ont l'oreille beaucoup plus exercée que l'académicien. Elles descendent l'escalier pour le dîner de l'académicien parce qu'elles savent distinguer du quatrième étage et d'un bout de la rue à l'autre si l'on crie des maquereaux ou des harengs frais, des laitues ou des betteraves. Comme les finales sont à peu près du même ton, il n'y a que l'usage qui enseigne aux doctes servantes à ne point se tromper. Et c'est une inexplicable cacophonie pour tout autre.
Et voilà comment, grâce à Mercier, surgit tout un univers sonore qui nous met d'ailleurs là à grande distance du Paris de cette fin du XVIIIe siècle. N'est-ce pas, Jean-Claude Bonnet ?
Oui, alors ça me fait penser à une phrase de Jacques Rivette sur Godard qui disait « Il a un œil et une oreille et non synchrone ». Et ça définit très exactement ce qui est central dans la dramaturgie de Diderot, qui est la scène composée. Diderot a inventé quasiment le cinéma en inventant cette notion. C'est-à-dire que le théâtre et la mise en scène est fait de la combinaison d'images et de sons.
Diderot a inventé le cinéma, là, c'est un scoop.
J'ai écrit là-dessus. Mais vous savez que j'ai écrit là-dessus et je me suis rendu compte 3 ans après qu'Eisenstein avait écrit là-dessus dans un texte d'Alma Ata.
Bonnet, Eisenstein, même
voilà,
combat.
J'étais très ravi. C'est dans ma vie de chercheur, c'est la seule fois où j'ai l'impression d'avoir inventé quelque chose, mais malheureusement, ça avait déjà été fait.
Et il ne l'aura pas su, malheureusement.
Alors, en tout cas, si vous voulez, Mercier, il a retenu la leçon de Diderot dans son théâtre. Vous prenez une pièce comme Louis XI. Dans son théâtre, Mercier, il crée, selon le vœu de Diderot, une profondeur de champ sonore dans cette pièce. Par exemple, il dit « il y aura des bruits dans le lointain ». Ou bien, une profondeur de champ visuel. Il y aura des quinquets au premier, c'est-à-dire quoi, allumer, éclairer la scène, devant la scène ou bien dans le fond. Donc il y a tout un étagement. Et après, dans le tableau de Paris, il fait pareil. C'est-à-dire qu'il a une oreille extraordinaire, comme on vient de le voir dans ce texte. Et alors là, plus précisément, ça touche aussi son intérêt pour le langage. Quelquefois, il se déguise, il va dans les gargotes, et il est fasciné par cette langue des barrières qu'il ne comprend pas. Donc là, on voit aussi un rapport à la langue, mais qui est évidemment pas la langue classique.
Nous parlerons de cela, car c'est un aspect très important de la modernité de Mercier à laquelle cette émission est consacrée. La vue, l'ouïe, il y a aussi... L'odorat, comme vous allez voir avec ce passage. Je prie nos auditeurs de me pardonner ce qu'il y a d'un peu violent dans cet extrait, mais vous verrez que il en vaut la peine. Il s'agit de latrine.
Latrine publique. Elle manque à la ville. On est fort embarrassé dans ces rues populeuses quand le besoin vous presse. Il faut aller chercher un privé au hasard dans une maison inconnue. Vous tâtez aux portes et avez l'air d'un filou, quoique vous ne cherchiez point à prendre. Autrefois, le jardin des Tuileries, le palais de nos rois, était un rendez-vous général. Tous les chieurs se rangeaient sous une haie d'if, et là, ils soulageaient leurs besoins. Il y a des gens qui mettent de la volupté à faire cette sécrétion en plein air. Les terrasses des Tuileries étaient inabordables par l'infection qui s'en exhalait. Monsieur le comte d'Angivillé, en faisant arracher ses ifs, a dépaysé les chieurs qui venaient de loin tout exprès. On a établi des latrines publiques, où chaque particulier satisfait son besoin pour la pièce de 2 sols. Mais si vous vous trouvez au Faubourg Saint-Germain et que vos viscères soient relâchés, aurez-vous le temps d'aller trouver l'entrepreneur ? L'un se précipite dans une allée sombre et se sauve ensuite. L'autre est obligé, au coin d'une borne, d'offenser la pudeur publique. Tel autre se sert d'un fiacre ou d'une vinaigrette. Il transforme le siège de la voiture en siège d'aisance. Ceux qui se sentent encore des jambes courent à demi courbés au bord de la rivière.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Les effluves de Paris, Jean-Claude Bonnet, c'est assez impressionnant.
Oui, mais justement, ça fait partie des détails, comme dit Mercier, inobservés et inouïs. Et ce qui fait qu'il est, inouï, est moderne. Dans aucun genre classique, ce texte-là n'est possible. Parce que, comme le dit Mercier, le classicisme, c'est le beau fixe. J'aime beaucoup cette expression météorologique qui renvoie à Diderot aussi. Comme Diderot, il aime ce qui bouge, il aime le vent. Eh bien, il ne faut pas être dans le beau fixe, avec toutes les règles du classicisme, on ne pourra pas parler des étrons. Et donc lui, tout à coup, ouvre une telle fenêtre sur la réalité qu'il en vient à envisager des catégories sensuelles, sensibles, hein, le monde sensible, qui était jusque-là complètement tabou. Alors, pour ce qui est des étrons, justement, il dit ailleurs « ces physionomies mortes, mais qui parlent encore ». C'est-à-dire qu'il est prêt à écrire déjà un livre d'archéologie sociale à partir des déjections.
Ce serait beaucoup, tout de même, un livre entier.
Ce serait beaucoup.
Mais enfin, on se rapproche de franchise et de la littérature contemporaine.
Mais bien sûr, oui.
Mercier donne l'impression à ses contemporains qu'il pénètre à l'intérieur même des foyers. C'est déjà la vie privée, l'expression arrive seulement à ce moment-là. C'est le diable boiteux. Il aime beaucoup le roman de Le Sage, qui est du début du XVIIIe siècle. On imagine le diable passant par les toits, levant les toits. Et Guitry en a fait un film dans les années 1940 qui était consacré à Talleyrand. Mais là, il s'agit d'autre chose. C'est vraiment la capacité d'investigation de Belzébuth.
Oui, il veut regarder à l'intérieur pour faire des catégorisations. Il dira, par exemple, il y a 6 sortes de soupes. Donc, pour envisager toute la série des soupes, il faut bien entrer dans l'intérieur des maisons. Alors, cette notion de vie privée, avant le milieu du XVIIIe, elle désignait les petits côtés de la vie des grands hommes. Et puis, c'est Rousseau qui, dans La Nouvelle Héloïse, emploie la vie privée au sens d'étude des mœurs, étude des coutumes. C'est Saint-Preux qui fait pour Julie l'histoire de la vie privée des Français, puisque Rousseau dit on ne peut pas connaître une nation si on n'envisage pas ses coutumes. Et Mercier voulait au début envisager les coutumes de Paris. Et la vie privée devient l'équivalent, on pourrait dire, de la vie matérielle aujourd'hui. Et le mot, pas tout à fait, mais enfin, l'histoire des mœurs, vie matérielle et histoire des mœurs.
D'ailleurs, c'est l'esprit de la grande histoire de la vie privée qui a été, il y a une vingtaine d'années, publiée par Le Seuil.
Voilà. Et donc, mais la vie privée, c'est Le Grand Aussi qui a publié en 1782 une histoire de la vie privée des Français. Il n'a publié que 3 volumes et est consacré aux manières de table. Et c'est avec Le Grand Aussi que le terme désigne histoire des mœurs. Et Chateaubriand, dans l'itinéraire de Paris à Jérusalem, emploie le terme vie privée dans ce sens.
Ce qui rejoint, ça c'est le quatrième sens, le goût. C'est-à-dire, thème de la gourmandise, vous venez de publier un livre qui s'appelle Jean-Claude Bonnet, la gourmandise et la faim. Vous êtes donc très attaché à ce type de curiosité. Chez votre grand homme, chez Louis-Sébastien Mercier, il y a aussi cet intérêt pour les choses de la bouche.
Ah oui, absolument. Absolument, il en parle assez souvent. Mais peut-être les chapitres les plus intéressants concernent curieusement la période révolutionnaire. Quand il dit « la bouche va toujours, même dans les prisons, où on fait des soupes et fins qui sont des derniers repas ».
Alors nous y voilà, la Révolution, c'est en effet un moment essentiel dans la vie de Mercier, quand on réfléchit à sa modernité et en même temps à la distance, puisqu'il y joue un rôle actif, il est non seulement un commentateur, non seulement un journaliste, mais il est élu à la Convention, avant de l'être au Conseil des 500, donc il court des risques, bien sûr, puisqu'il défend les Girondins lorsqu'ils sont opprimés, exécutés, et lui-même en prison. Donc il observe tous les aspects de cette émotion collective.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il continue à faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire que, et ça c'est complètement singulier.
Ces instruments étaient prêts pour l'analyse.
Voilà, et je pense que Michelet s'en est souvenu aussi. C'est-à-dire qu'il fait l'histoire de la Révolution à partir de l'histoire des mœurs.
Victor Hugo aussi.
Voilà, et donc il s'intéresse aux chansons, aux affiches, à ce qu'on mange, à la vie quotidienne. Et c'est par là, et pas seulement par les idées politiques, qu'il envisage la Révolution, ce qui lui donne un spectre extraordinaire. Et ce qui est vraiment dommage que ce livre ne soit pas plus connu, parce que c'est...
Il va l'être à partir d'aujourd'hui.
C'est un grand livre sur la Révolution.
Il s'intéresse plus au mécanisme du pouvoir qu'au contenu politique. En quoi il est très moderne?
Oui. Sa singularité qui fait qu'il n'a pas fait merveille sur la scène de la Révolution, c'est qu'il est un modéré.
N'est pas un grand orateur.
Voilà. C'est pas un grand orateur.
C'est un centriste.
C'est un centriste. Et il dit très bien d'ailleurs que c'est pas séduisant d'être centriste, d'être c'est le mot du mou. Mais en même temps, c'est beau.
Büchner, dans la fameuse mort de Danton, le présente comme un personnage qui ne cède pas à l'ivresse des mots qui tuent.
Oui, ça, c'est les mots de Mercier. Et ça, c'est sa grandeur. Et je pense, là, vous voyez, il y a un document de Mercier sous la Révolution, c'est les 88 lettres qu'il a écrites quand il était en prison pendant un an. À sa compagne, que j'ai transcrite dans le volume de donc Le Nouveau Paris au Mercure de France. Et c'est un témoignage absolument bouleversant sur les prisons révolutionnaires. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit quelqu'un qui est en désaccord avec l'héroïsme sacrificiel de la scène révolutionnaire. C'est un auteur de drame bourgeois, il n'aime pas la tragédie, il n'aime pas le sang. À l'Assemblée, par exemple, il a eu une prise de bec absolument terrifiante avec Robespierre, parce qu'il avait osé dire qu'il était ridicule de se prendre pour des Romains. Et Robespierre lui dit « Comment répondre à un tel homme ?» Et c'est effrayant, parce que quand même, cet homme, Mercier, il était témoin au mariage de Desmoulins avec Robespierre. Vous voyez comment la Révolution défait les amitiés, et qu'ils se sont entretués pour des songes, comme dit Quinet.
Les amitiés subsistent rarement en politique, en tout cas au sommet, mais ne conduisent heureusement pas toujours jusqu'à la guillotine. Mais
oui, bien sûr, là c'était quand même grave.
Il y a des textes magnifiques sur les massacres de septembre, et là encore, il regarde les choses qui passent. Deux charrettes pleines de corps morts, près de moi. Un conducteur tranquille les menait en plein soleil et à moitié ensevelis dans leurs vêtements noirs et ensanglantés jusqu'aux plus profondes carrières de la plaine Montrouge que j'habitais alors. Une troisième voiture s'avance, un pied dressé en l'air en sortait d'une pile de cadavres. À cet aspect, je fus terrassé de vénération. Le mot est significatif. Je fus terrassé de vénération. Ce pied rayonnait d'immortalité. Il était déjà céleste, celui à qui il avait appartenu. Et la dépouille portait un signe de majesté que l'œil des bourreaux ne pouvait apercevoir. Je l'ai vu, ce pied, je le reconnaîtrai au grand jour du jugement dernier, lorsque l'Éternel, assis sur ses tonnerres, jugera les rois et les septembriseurs. Ça valait la peine de citer ce passage.
Oui, c'est un texte magnifique. Et c'est quelque chose qui résonne pour aujourd'hui, hein, parce que le pied est promis au rang de physionomie reconnaissable. Il est comme l'emblème de tous les génocides de l'histoire humaine. Et là, on retrouve ce que je disais tout à l'heure sur la pitié qui était dans le tableau de Paris. Eh bien, cette pitié, elle est encore là. C'est-à-dire que Mercier a de la compassion pour les gens qui souffrent de la Révolution.
Et en même temps, cet homme de l'observation immédiate s'en échappe pour se hausser jusqu'à l'éternité, jusqu'à...
Oui, il y a une espèce de républicanisme mystique. On peut trouver ça au cercle social, avec les envolées de l'abbé Fauché et de ce cercle qui était très proche des Girondins et des gens que Mercier a bien connus. Il y a aussi toute une obsession du pied chez Mercier, hein, puisque ce pied, lui nous dit qu'il a fait le tableau de Paris avec ses jambes, sur son pied. Et donc il y a toute une fantasmagorie autour du pied. Il nous dit que le très célèbre danseur Vestris, il nous dit, c'est sur la pointe de son pied que Vestris faisait l'archange. Donc il y a là quelque chose effectivement de céleste. Et cette apparition là de Mercier, je crois, elle résume cette vision. Elle résume toute l'horreur quand même de la terreur. Et Mercier, c'est pour ça sans doute qu'on n'en a pas lu Le Nouveau Paris. Quand vous pensez qu'au moment du bicentenaire, il y a eu un colloque consacré à la Révolution de la littérature, il n'y avait rien sur le Nouveau Paris.
Vous n'avez pas imposé une attention pour...
Non.
C'est un livre qui est paru plus tard, qui est paru
en 1994.
Début... Oui.
Et pourquoi ? Parce que, si vous voulez, dans l'histoire républicaine, on n'aime pas les gens qui font la critique de la terreur. Ils sont... en général, parce que la Révolution...
Ils abondent.
Enfin, non, au 19e siècle.
Ils abondent.
Au 19e siècle.
Anatole France et Dieu en soif.
Bien sûr, mais avant...
Il faut poser aussi en face 93, de Victor Hugo, qui met l'accent sur toutes les intuitions géniales de la Convention. Mais nous n'entrerons pas plus avant, si vous le voulez bien, Jean-Claude Bonnet, dans ce débat. Restituons, là encore, le regard de Mercier sur ce qui... est survenu à l'époque. Et je ne m'éloigne pas de la terreur puisqu'il s'agit de l'exécution de Marie-Antoinette. Il s'agit d'un texte lu dans les Lundis de l'Histoire de Pierre Cipriot le 6 février 1967 par Paul-Émile Deybert, sociétaire de la Comédie-Française.
Les deux frères de Louis XVI auraient mis leur tête sous le rasoir national, pour me servir du terme plaisant que l'on donnait à l'horrible instrument du supplice, sans leur prudente et heureuse fuite. Leur nièce ne fut conservée que pour servir d'échange aux quatre députés que la basse trahison de l'infâme Dumouriez avait livrés à l'ennemi et la tête de Drouet, en danger, faisait respecter celle de la princesse autrichienne. On ne lui donnait pas d'autre nom. La reine ne perdit point la veille ni le jour de son supplice la passion et l'instinct d'une femme. Elle repassa soigneusement son bonnet, fit sa toilette avec le même goût et dans un genre de simplicité. Elle disait sur son lit de sangle aux gendarmes qui n'étaient séparés d'elle que par un paravent « Croyez-vous que le peuple me laissera aller à l'échafaud sans me mettre en pièces ?» Et le gendarme répondait « Vous parviendrez à l'échafaud, madame, sans qu'il vous soit fait aucun mal. » Elle n'eut point de voiture. Elle fut conduite en charrette, comme l'épouse de Roland, et n'eut point son stoïcisme. Le peuple la vit passer avec une indifférence qui tenait beaucoup du mépris et que sa conduite avait inspiré. Lorsqu'elle fut en face du palais royal, elle ne put dompter un signe d'indignation. C'était de ce palais qu'était sorti son épouvantable revers. Elle tomba évanouie sur l'échafaud. Tous les spectateurs furent aussi tranquilles que si c'eût été une victime ordinaire. Il n'y eut ni propos insultants, ni outrages, ni larmes, ni regrets.
Louis-Sébastien Mercier, considérant la mort de la reine, c'est un modéré, parfois inefficace. Madame Roland a parlé d'un zéro dans la Convention dont il était membre. Il n'a d'ailleurs pas voté la mort du roi. C'est un éloge de la modération que cette œuvre de Mercier. Parfois inefficace, d'ailleurs, c'est pas un grand orateur.
Oui, mais dans la notion de modérantisme, il s'est toujours tenu à cette position qui est une position politique et une position morale, en fait. Et vous savez que ce terme de modéré qui était pris en bonne part sous la Constituante, Mercier nous dit qu'il est devenu très rapidement une injure. Il y a d'ailleurs une pièce qui s'appelait Le Modéré, qui était une satire effrayante de modéré. Et après, Mercier dit, on nous accusait de modérantisme pour punir notre modération. Il dit ça dans la néologie.
Sous la IVe République, les modérés, c'est une droite installée.
Voilà. Mais en même temps, c'est du point de vue de son modérantisme personnel, et non pas au sens, peut-être au sens politique propre à la Révolution, qu'il va faire la critique de la terreur et de tout ce qu'il peut avoir de sanglant, et qu'il ne peut pas supporter, qu'il exècre. Il n'aime pas le tragique. Vous savez ce que dit Desmoulins à son ami Marat ? Vous êtes le tragicotatos. Vous voulez égorger tous les comédiens et en plus le souffleur. Eh bien, Mercier, il n'est pas du tout dans le tragique. Et quand il est en prison, il ne cherche pas à être héroïque, il cherche à survivre. Et ça, c'est une leçon magnifique. Il écrit à sa femme, je me suis dit que je vivrais. Et dans le nouveau Paris, il explique comment il a survécu. Ça aussi, ça a des résonances pour le XXe siècle.
Comment a-t-il survécu ?
Il a survécu par son régime, en calculant ses bouchées, en essayant de se maintenir en santé, en demandant à sa femme tel ou tel médicament. Et là, on n'est pas avec son ami Vergniaud, Girondin. Vergniaud, qu'est-ce qui l'intéressait ? Réussir sa sortie, faire son dernier discours, son chant du cygne, son grand discours fleuri. Mercier, lui, ce qui l'intéresse, c'est de survivre.
C'est le contraire de la grandiloquence.
Voilà, oui. Et donc, ce refus du tragique, qui fait qu'on l'a, on l'a pris, effectivement, de garder une contenance bonhomme dans la Révolution. Il s'est maintenu à cette contenance, et ça n'était pas accordé avec le moment, avec les grands rôles.
Eh bien, écoutez donc cet extrait du Nouveau Paris, qui s'inscrit tout à fait dans la ligne de ce que vous venez de nous dire, Jean-Claude Bonnet. C'est une lecture de Éric Herson-Macarel dans l'émission de notre cher Antoine Perrault, Tire ta langue, sur France Culture, le 9 septembre 2003.
Des hommes ineptes avaient dit qu'en révolution, il ne faut jamais regarder derrière soi. Cette maxime est très fausse. Les révolutions se conduisent et s'achèvent par ceux qui mesurent et comparent ce qui est fait et ce qui reste à faire. Et les vertus morales deviennent d'autant plus nécessaires qu'on en a perdu toute idée et que les dénominations injurieuses, c'est-à-dire les paroles dépourvues de sens, sont des arrêts de mort qui portent sur les citoyens les plus jaloux de la liberté et du bonheur de leur pays. Ce sont toutes ces phrases insignifiantes, et même celles qui étaient le plus inintelligibles, qui ont été le ciment des prisons et des échafauds. Les chefs de parti ont osé s'en servir avec un succès qui atteste que, dans une nation éclairée, le plus grand nombre d'individus ne l'est pas encore, et que les calamités particulières deviennent un pur spectacle pour ceux qui n'en sont pas atteints dans le moment. Sans doute, pour peindre tant de contrastes, il faudrait un historien comme Tacite, ou un poète comme Shakespeare. S'il apparaissait de mon vivant, ce Tacite, ce Shakespeare, je lui dirais « Fais ton idiome, car tu as à peindre ce qui ne s'est jamais vu, l'homme touchant dans le même moment les extrêmes, les deux termes de la férocité et de la grandeur humaine. Si, en traçant tant de scènes barbares, ton style est féroce, il n'en sera que plus vrai, que plus pittoresque. Secoue le joug de la syntaxe, s'il le faut, pour te faire mieux entendre. Oblige-nous à te traduire. Impose-nous non le plaisir, mais la peine de te lire. » Je ne crois pas en effet que notre langue puisse marcher encore longtemps sans sortir de la gêne où une timidité gratuite la captive au milieu de tant de spectacles nouveaux et non moins étonnants. Si le style demeure esclave, ils ne seront point transmis à l'admiration ou à l'horreur de la postérité. Et quoi, l'ambitieuse tourbe démagogique au milieu de la tempête révolutionnaire ne s'est-elle pas créée un langage fait pour tromper et séduire la multitude? J'ai entendu crier à mon oreille que les Français périssent pourvu que la liberté triomphe. J'en ai entendu un autre s'écrier dans une section, et je l'atteste, « Oui, je prendrai ma tête par les cheveux, je la couperai, et l'offrant au despote, je lui dirai, « Tyran, voici l'action d'un homme libre. » Ce sublime de l'extravagance était composé pour les classes populacières. Il a été entendu. Il a réussi. Et nous, nous ne ferions pas une langue pour transmettre à nos derniers neveux ces incroyables phénomènes moraux et politiques qui ont frappé d'une longue surprise et nos regards et notre entendement.
Il s'agit bien encore du modéré Mercier, inquiet devant ceux qui agitent la tourbe populacière. Mais ici, c'est un amoureux de la langue, préoccupé des vocables et de leur évolution, que nous le retrouvons pour la dernière partie de cette conversation, Jean-Claude Bonnet.
Oui, parce que la Néologie, publiée en 1801, est un dictionnaire des mots nouveaux qui vient clore toute la carrière littéraire de Mercier. Qui est
Il écrit, « J'aime l'innovateur en fait de style. Il remplit la langue de termes et de tours vigoureux. Je n'entends point ici la création de mots bizarres. J'entends une signification neuve donnée à telle expression, des mouvements précipités, des termes creusés et approfondis. » Un nouveau sens qui évoque autre chose. Il évoque d'ailleurs, dans une métaphore intéressante, un persan qui s'habille à l'européenne et qui néanmoins demeure persan en profondeur.
En fait, ce goût pour la langue, il dit qu'il l'avait dès le début, dès son adolescence. Il dit quand il allait avec ses petits copains du collège au Café Procope pour évoquer les pièces qu'ils avaient vues ensemble, il dit qu'il aimait trouver, pour son expression, une tournure neuve et singulière. Donc il a été néologue tout de suite, et il a rejoint, si vous voulez, son livre La Néologie, en fait, est vraiment considéré aujourd'hui comme un ouvrage qui vient clore toute la querelle sur la néologie au XVIIIe siècle, qui était très importante, qui avait commencé avec l'abbé Desfontaines. Il y a l'abbé Desfontaines qui s'était moqué du jargon. Forcément, les néologues étaient forcément des jargonneux, des beaux esprits ridicules. la BD Fontaine s'était moquée d'eux à l'Académie. Et puis après, l'Académie, qui était contre les mots nouveaux, va accepter ces mots nouveaux. Il y aura toute une évolution de Voltaire, par exemple. Son dernière apparition à l'Académie, Voltaire va dire que oui, il faut agrandir la langue. Et Diderot voulait que la langue soit agrandie à cause des savoirs, pour accueillir tous les nouveaux savoirs, toutes les techniques. Et Mercier se situe évidemment dans les néologues. Dans le tableau de Paris, il les consacre plusieurs chapitres à des mots nouveaux. Par exemple, dans le tableau, le Nouveau Paris, le mot roué, le mot mystification, les incroyables. Enfin, il y a plusieurs chapitres consacrés à un mot.
Donc, c'est pas seulement l'utilisation nouvelle d'un vocable ancien, mais c'est aussi l'invention d'un vocabulaire, contrairement à ce qu'il vient de dire. Il y a des exemples magnifiques. Il dit, par exemple, qu'il faudrait inventer le mot lugubré. Lugubrer un théâtre par des pièces tristes et noires, affligeantes. Lugubrer une assemblée par des épouvantables détails d'un crime atroce. On y revient. Lugubrer l'esprit des enfants par les contes de revenants. Et encore ceci, l'embrasseur. Ah, monsieur l'incommode embrasseur que je rencontre quelquefois, soyez l'embrasseur de madame et non le mien. Point d'embrassade entre hommes, un serment de main. Là, pourtant, il y a des modes récentes qui vont en sens inverse. Et enfin ceci, que je trouve admirable, il invente le mot « vionche » pour des hommes très âgés, des hommes de longue vie. Le vionche est celui qui a dépassé les années ordinaires et qui est par-delà de la vieillesse. Le vionche Fontenelle, on sait qu'il est mort centenaire ou quasiment, alla jusqu'à 100 années, malgré la faiblesse de sa complexion. Il existe aux Invalides un vionche de 117 ans. J'ai vu ce matin un vionche de 112 années et qui marche bien. Toujours cette capacité de mêler l'invention, l'imagination chez notre Mercier, quelque chose comme une gaieté qui est très vitale.
Oui, et souvent des mots. Par exemple, il y en a un que j'aime beaucoup, moi, c'est le mot vilasse.
Qu'est-ce que c'est, vilasse?
Alors, vilasse, c'est entre village et ville. C'est la petite ville. Et alors, il dit, vivez dans un village ou vivez dans une ville, fuyez les vilasses. Avec ce suffixe péjoratif en as.
C'est un bourg ou une petite ville,
oui. C'est une petite ville. Mais en tout cas, peut-être faut-il rappeler une chose, c'est que c'est la passion pour la langue de Mercier pendant la Révolution. Parce qu'il avait expliqué dans ses portraits des rois de France en 1783 que seuls les orages politiques régénèrent et étendent la langue nationale. Et quand il a vu 89 se produire, il s'est dit, voilà, le moment est venu d'une extraordinaire régénération de la langue. Et je vais en témoigner. Et il a voulu, dans les deux premières années de la Révolution, faire un dictionnaire, écrire le vocabulaire des deux premières années de la Révolution.
Et il y a effectivement beaucoup de mots neufs.
Voilà, absolument des mots neufs. Et alors moi, j'ai fait une découverte scientifique, si je puis dire, dans le fonds Mercier de l'Arsenal.
Félicitations.
C'est une des rares que j'ai faites, peut-être la seule. C'est que dans les très longs dossiers de notes sur le langage, de toutes les fiches, eh bien, j'ai repéré 200 fiches qui sont écrites selon un protocole très clair et très régulier et qui manifestement sont déjà prêtes à l'impression, sont déjà un livre en fait. C'est le vocabulaire du début de la Révolution. Et en fait, il ne l'a pas publié.
Par exemple, quel mot voyez-vous? Jacobin, Girondin,
oui,
sans culotte.
Oui, c'est ça. Il y a modéré qui est au cœur. Et simplement, qu'est-ce qu'il éprouve? Ben justement, par rapport au modéré dont nous avons parlé, il éprouve que le langage de la Révolution, on ne peut pas le saisir. Lui qui prétend saisir tout. Mais là, ça va trop vite.
Parce qu'il est trop mobile, il y a une accélération.
Comme il dit, en Révolution, le jour d'hier est un cadavre. Eh bien, pour les mots s'usent. Ils sont aussi volatiles que les modes. Ils sont très changeants. Et donc, on ne peut pas fixer ce vocabulaire. Et après, ce vocabulaire des deux premières années est envahi par des mots terribles qui ont été évoqués dans la magnifique citation, des mots exagérés, des mots qui tuent. Eh bien, il dit non. Moi, je ne veux pas, dans mon vocabulaire de la Révolution, que figurent les mots qui tuent. Et donc, il abandonne ce vocabulaire. Et il va décider, une fois sorti de prison et sous le directoire, de faire donc sa néologie, qui est un dictionnaire qui n'est pas du vocabulaire politique. Ça sera le dictionnaire d'un seul homme, qui ne sera pas un dictionnaire de grammairien ou de comité d'instruction publique ou de nomenclature des grammairiens. C'est le dictionnaire d'un écrivain.
Vous en avez donné d'ailleurs récemment une édition moderne chez Belin, Jean-Claude Bonnet, et vous avez retrouvé, parce que c'est un mélange de définitions et de citations, vous avez trouvé les origines de toutes les citations. C'est un travail de titan.
Oui, oui.
Et vous en avez tiré quel type de conclusion?
D'abord, il y a un petit jeu. Et il avait appelé ses collègues de l'Institut à jouer au néologisme. Et donc, ils passaient leur temps à s'envoyer des petits bouts de papier et en inventant des nouveaux mots et en faisant ce que Mercier appelle des enchâssures. C'est-à-dire, il donne à ces nouveaux mots, il leur donne comme des entrées de théâtre. Il les met en scène. C'est comme un travail d'orfèvre. Il se dit qu'il est diamantaire. Et c'est-à-dire qu'il y a un mot nouveau qui est un diamant, et lui, il va faire l'enchâssure, il va un petit contexte, un petit récit, un petit scénario. Donc il y a tout ce jeu-là, et on voit dans le fond de l'arsenal que beaucoup de ses collègues ont répondu à cet appel. C'est devenu un petit jeu de société. Et donc il y a cette part de jeu dans son livre.
Un peu ce qu'on a appelé plus tard les mots-valises, ou bien l'imagination langagière à partir de ce qui existe déjà. Je vois qu'il parle d'encacheter pour mettre au cachot.
Oui, alors ça c'est toutes les dérivations, les créations de mots. Mais ce qui est intéressant, c'est que la néologie est faite de citations pour la plupart. Mais quand ce ne sont pas des citations, c'est Mercier qui met en scène un mot nouveau dans un petit scénario de 3 ou 4 lignes. Il nous dit « Faire vivre le mot neuf qui fait vibrer chez vous la fibre inconnue. » Donc la fibre inconnue. On est là dans un autre monde. Il parle de l'art inconnu, souvent. Chateaubriand reprend ça. Chateaubriand parle aussi de l'art inconnu. Et l'art inconnu, c'est de la littérature. Par rapport, qui s'invente à ce moment-là, par rapport aux belles lettres anciennes, aux anciennes belles lettres. Et dans la néologie, peut-être le plus important, c'est la préface. La préface qui est un texte absolument fondateur.
Que nous dit-il?
C'est un plaidoyer contre le beau fixe. C'est ce qu'il a toujours fait d'ailleurs. Il a écrit des petits textes, des opuscules quand il avait 23 ans, de la littérature et des littérateurs, de discours sur la lecture. Le bonnet de nuit qui est un manifeste du premier romantisme. Et la néologie est aussi une déclaration pour la littérature moderne. Et il y a dans une très longue note consacrée à Atala. Il défend Atala.
De Chateaubriand.
Il est un des rares à le faire. Je souris de voir s'accréditer des licences qui tourneront à la grande gloire de la langue, à la plus grande gloire de la langue. J'aime le style d'Atala. Allumez-vous au milieu de nous, volcan des arts. Et il reconnaît très bien, chez Chateaubriand, la vigueur de la langue, qu'on pourrait dire qu'est la vigueur de Montaigne aussi, les mots couleurs. Il retrouve ça. Chateaubriand est profondément néologue aussi. Donc, ce qui est passionnant dans cette préface de la néologie, c'est que ce dictionnaire, cela a été vraiment dit déjà, ouvre sur l'invention littéraire qui va suivre.
Presque vers le surréalisme.
Ah, tout à fait, oui.
Je vois des visions qui peuvent tout à fait annoncer ce surréalisme quand il évoque, à l'occasion de la Révolution, la pluie de neige des matelas éventrés lors de la prise des Tuileries, où le jeune Savoyard, debout au sommet de l'orgue de l'église, semblable, dit-il, à l'ange trompette du jugement. Les statues qui sont descendues de leur niche aux Invalides, simulacres d'évêques, offrant de loin, à l'œil du spectateur, l'image d'un concile. Il y voit aussi un bourreau qui joue du violon à côté des cadavres, une marquise qui se fait ravaudeuse, et des ex-religieuses qui trafiquent des perruques blondes ou des chaussures d'hommes.
Et ça, si vous voulez, ça sera un répertoire de visions que tous les romanciers du XIXe siècle vont utiliser.
J'ai tort de parler de surréalisme.
On peut tout à fait dire surréalisme. C'est-à-dire, Mercier s'est tellement passionné dans le tableau de Paris pour les brocantes, pour les saisies, pour l'encan. Il dit que la salle des ventes, le greffier de la salle des ventes, est une métaphore pour lui de l'écrivain, de son travail d'écrivain. Eh bien, il était vraiment fait pour décrire la grande brocante qu'est la Révolution. La Révolution, de ce que vous venez de lire, est une grande brocante. Il était vraiment l'écrivain fait pour nous la dire.
Eh bien, puisqu'il était fait pour nous la dire, on va lui donner le dernier mot au moment où il se définit lui-même comme un républicain. Écoutez cet extrait du Nouveau Paris, lu par Bernard-Pierre Donadieu dans Les Chemins de la Connaissance sur France Culture le 18 novembre 1994.
Il y a aujourd'hui 8 ans que nous sommes en grande révolution. Il y a 8 ans qu'à pareil jour, la chute de la Bastille ébranla dans ses fondements la plus ancienne monarchie de l'Europe. Que d'événements! Quelle histoire! Combien nous avons vieilli depuis 8 ans! Nous allons célébrer la commémoration du 14 juillet. nos neveux seront plus disposés encore que nous à fêter l'anniversaire d'une si mémorable époque. Ils en recueilleront les fruits, nous en avons eu les peines. Ils oublieront nos travaux, nos dangers, nos combats. Ils nous feront peut-être des reproches injustes. C'est qu'il leur sera impossible de se figurer dans quelle tourmente nous avons été battus. Mais qu'ils honorent ou qu'ils n'honorent pas notre mémoire, il est pour moi un sentiment qui me console de tout. J'étais né sujet, je mourrai républicain.
Républicain jusqu'au bout ?
Oui, ce qui est très passionnant, c'est cette critique de la Révolution au nom d'elle-même. Hein. Je disais qu'on la retrouve chez Desmoulins, dans le testament si poignant du vieux Cordelier, mais on la retrouve aussi dans ce grand livre, un peu trop méconnu, d'Edgar Quinet, La Révolution, et où Edgar Quinet nous dit, après Mercier, que le despotisme populacier est aussi détestable que le despotisme nobiliaire.
D'ailleurs, il est très fier en face de Bonaparte, quand il lui envoie la néologie. Il lui dit qu'il est aussi moderne que lui-même dans un certain nombre de réformes et qu'il espère que son don sera reçu dans cet esprit.
Oui, je ne pense pas que Napoléon l'ait vraiment apprécié.
Il était premier consul.
Il y a un texte de Mercier sur le premier discours de Bonaparte à l'Institut qui est magnifique. Mais je ne pense pas qu'il ait apprécié cette désinvolture de Mercier. Qui était
d'ailleurs, Mercier devient un exilé de l'intérieur.
Oui,
il meurt juste au retour, oui. Au moment du retour de Louis XVIII, en 1814.
Il est déconsidéré parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. C'est-à-dire, tout son art poétique, il le dit sous des formes pour nous compréhensibles, mais qui ne l'étaient pas pour ses contemporains. Par exemple, il dit... dans la néologie, « Car vous tous qui m'écoutez, qui me lisez, vous êtes tous auteurs. » Et il y a cette phrase merveilleuse, « Qu'est-ce qu'un livre, je dis ? C'est celui qui le lit. » Donc ça, ce sont des choses qu'au XXe siècle, on peut comprendre. Mais en 1802, non.
On considère donc que c'est un vieil extravagant.
C'est un fou.
Eh bien, nous savons qu'il ne l'était pas, et je vous remercie beaucoup, Jean-Claude Bonnet, de nous avoir permis de le mieux comprendre. Quelques indications bibliographiques. Vous avez publié, Mercier vous doit rétrospectivement une fière chandelle, vous avez republié Le Tableau de Paris et Le Nouveau Paris avec une équipe naturellement, mais vous avez donné une préface importante au Mercure de France en 1994. Le premier volume est épuisé ?
Oui, le premier volume du Tableau de Paris.
Eh bien, il faut le rééditer, non ?
Ben oui, je pense, il conviendrait.
L'ouvrage qui s'appelle Néologie, que nous avons également évoqué, édité par vous, est paru chez Belin en 2009. Et puis on doit remercier Christophe Cave et Christine Marcandier qui ont republié l'an 2440, Rêve s'il en fut jamais, c'est Utopie, paru à la Découverte en 1999. J'ai signalé en passant, à propos du goût, que vous venez d'éditer directement en livre de poche en 2015, « La gourmandise et la faim, histoire et symbolique de l'aliment, 1730-1830 ». Il est presque l'heure de déjeuner, je sens que les papilles se préparent. Vous pourrez, mes chers auditeurs, trouver une bibliographie plus complète, vous le savez, sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés, écoutés, réécoutés et podcastés, téléchargés, choisissez le mot, cette émission. Samedi prochain, l'actualité vous en apparaîtra éclatante, nous parlerons du Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan n'est pas mort et je recevrai pour cela Lauric Henneton. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet préparée par Nathalie Lempereur et Jeanne Guéroux, une émission réalisée par Anne Kobilac, avec Pierre Fossillon à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Hervé Evano. Et dans quelques instants, vous allez avoir la satisfaction de retrouver Christine Ockrent pour Affaires étrangères.